Alors là, c'est un grand, grand plaisir d'être avec moi, avec vous. Et moi, je suis toujours, avec vous. Et pour continuer de parler du projet de l'Église, c'est toujours un projet de cette volonté de l'Église de s'agrandir. J'étais à Bordeaux, je suis allé voir ma fille, et je suis allé à la cathédrale de Bordeaux, et j'ai vu cette église qu'ils avaient construite, il y avait plus de 2000 places. Et voilà quoi, comme la personne au fond devait voir le prédicateur comme ça, parce que tellement c'est immense. Je me dis, les gens qui ont construit cette cathédrale, ils avaient une vision de qui est Dieu, un grand Dieu qui, voilà, le plafond est vachement plus haut que nos plafonds, et les salles sont tellement plus grandes que ce que nous imaginons quand nous faisons des églises. C'est compliqué de parler de Dieu. En fait, notre première difficulté, c'est qu'on voudrait bien parler de Dieu, mais on ne sait pas comment le faire. En fait, on voudrait parler de Dieu de façon accessible. Et je vous propose ce matin de voir que c'est peut-être parce qu'on essaye d'être, comment on peut dire ça, d'être perçu comme raisonnable quand nous parlons de Dieu, que nous avons un problème pour parler de Dieu. Vous me suivez? Parce que la première caractéristique de Dieu, c'est précisément de ne pas être raisonnable. Je vous choque? Les philosophes vont parler de Dieu comme l'être suprême, et les religions vont parler de Dieu comme celui qui nous permet de nous réconcilier. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des mauvaises récoltes, ils faisaient des sacrifices d'animaux, de plantes, pour dire à Dieu, ah Seigneur, donne-nous la pluie au bon moment, etc. Mais quand Jésus est venu nous parler du Père, ce n'est pas un Dieu raisonnable dont il nous a parlé. Alors, j'ai quelques preuves là. Vous savez, quand Job a connu toutes ces épreuves, vous vous rappelez cette histoire incroyable, il y a le diable qui vient voir Dieu et lui dit, ouais, Job, il te sert parce que tu l'as béni, tu lui as donné plein de biens, tu lui as donné plein de choses, de richesses, etc. Mais s'il avait des petits problèmes, et ben voilà, il te renierait. Et à Dieu, alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris à un moment donné, moi j'ai envie de dire à Dieu, laisse Job tranquille. Il lui dit, vas-y, tu peux y aller. Alors, il perd des animaux, il y a sa grange qui brûle, enfin, il perd tous ses biens comme ça, et il y a sa femme qui est folle de rage, qui dit, maudit Dieu, il meurt. Et lui, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Alors, il y a le diable qui retourne voir Dieu et qui lui dit, mais tu n'as pas touché à sa santé, quoi. Et il ah, ben, dit, tu peux. Mais non, Dieu, il ne faut pas dire ça. Et le diable touche à la santé de Job, et c'est grave. Il a plein de soucis de peau, tout et tout. Et il a comme ça plein d'épreuves. Et tout à la fin de l'épreuve, il a des discussions avec ses amis. Tout à la fin de l'épreuve, il y a Dieu qui se présente à Job. Et vous savez ce que Dieu dit à Job? Il dit, tu sais, moi, j'ai fait les hippopotames. Alors, je ne sais pas vous si vous avez connu des épreuves, mais quand on connaît des épreuves et que Dieu vient nous voir, on attend autre chose que Dieu qui vient nous dire, j'ai fait les hippopotames. Vous voyez le truc, hein? Ah, les hippopotames, tu as vu leurs mâchoires? Elles sont capables de tout broyer. Regarde ces animaux que j'ai faits. De quoi tu parles là? Pourquoi tu as permis à l'ennemi que j'ai des épreuves? Voilà ce qui nous intéresse, nous, de savoir pourquoi Dieu, des fois, fait des choses qui ne nous paraissent pas raisonnables. Mais Dieu nous dit, moi, j'ai tout créé. J'ai créé l'univers, j'ai créé ta vie. J'ai fait tout ça. J'ai une autre histoire comme ça. Il y a Jonas à qui Dieu demande d'aller pour évangéliser ses ennemis. Vous voyez, c'est à peu près comme si dans la guerre de 40, on avait demandé à des Français d'aller évangéliser des Allemands. Vous voyez, à peu près le truc, quoi. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau et il va aux États-Unis, hein, si vous voulez. Hein, voilà. Et à un moment donné, il y a les marins, ils ont une tempête terrible et ils disent, mais qui parmi nous a fait l'idiot pour qu'on ait une tempête pareille? Alors il lève la main, Jonas, il dit, je crois que c'est moi. Il dit, c'est quoi la solution? Ben jetez-moi à l'eau. Ben voilà, Jonas, il est délirant aussi. On le jette à l'eau, il y a un poisson qui le mange. Ben voilà, pendant 3 jours, il est dans le poisson le rejette. Et il va évangéliser. Alors, vous imaginez quoi, hein, le cœur qu'il y met quoi, pour évangéliser. C'est ça que quand on a peur nous, de témoigner, vous voyez, relisez l'histoire de Jonas. Jonas veut évangéliser ce qu'il dit. Ouais, si vous ne changez pas de comportement, eh ben, Dieu vous punira dans 3 jours. Non, dans 1 semaine, enfin, dans 10 jours. Je sais plus trop, quoi. Et puis, voilà. Donc, repentez-vous, changez de vie, ou bien Dieu va vous punir. Vous voyez, à peu près ce ton-là, quoi. Et les gens, ils sont bouleversés, ils disent, ah! Dieu a vu ce que nous faisons de mal, et ils se mettent tous à se repentir, et toute la vie se convertit. Et Jonas, au lieu d'être dans la joie, dit à Dieu, tu vois, je te connais, toi. Tu as trop de pitié, tu as trop d'amour, tu as trop de miséricorde. J'étais sûr que ça allait le faire. Vous voyez, le gars qui n'a pas évangélisé avec mon cœur, vous voyez. Et Dieu essaye de calmer Jonas, il fait pousser un dessin à côté de lui, et ça lui fait de l'ombre. Il est plus content, vous savez, c'est comme aujourd'hui, vous mettez la l'ombre, vous mettez un petit sirop frais, tout bien, il s'endort. Et là, Dieu vient mettre un petit verre dans le ricin, et le ricin meurt. Ce qui fait que le matin, quand il se réveille, il a le cagnard sur la tête, comme ça, et ça lui donne mal à la tête, et il se réveille comme ça. Mais Dieu, pourquoi tu as détruit mon ricin? Et Dieu lui dit quoi? Tu as pitié d'un ricin? Et tu n'as pas pitié de dizaines de milliers de personnes qui t'entourent. Et le texte s'arrête comme ça. C'est drôle quand même, l'humour de Dieu, l'audace de Dieu. Vous savez que les chrétiens n'étaient pas spécialement aimés des gens qui les entouraient. Vous savez pourquoi? Parce que on les accusait d'être athées. Ouais, ouais. Les premières personnes à être accusées, quand vous rencontrez un athée, vous pouvez lui dire ça. Tu sais, moi aussi, je suis athée. Parce que je ne crois pas que Dieu il est dans le ciel éloigné. Je crois que Dieu il est venu sur terre. Je crois que c'est un homme. Et je crois que je peux connaître Dieu que à travers un homme. Et quand les premiers chrétiens disaient ça, on disait, ils sont athées. Ils confondent Dieu et l'homme. Mais on peut quand même se poser la question. Dieu, en devenant homme, est-ce qu'il n'a pas relativisé l'idée de Dieu? Vous me suivez? Est-ce que si Dieu devient homme, finalement, il n'y a plus de Dieu? Vous me suivez? Non, vraiment, on va lire ce texte incroyable, 2 Corinthiens 1, verset 18, pour continuer notre réflexion. Dieu a accepté de ne pas être raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il veut nous toucher. Il veut nous atteindre. Il veut atteindre nos contemporains. Et quand Dieu veut quelque chose, il emploie des méthodes de fou. En effet, prêcher la mort de Christ sur la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous, qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voilà ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, que peuvent encore dire les sages ou les gens instruits, les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il se manifestait avec sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs, et c'est une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Waouh! Qu'est-ce que j'aime ce texte? On n'est pas obligé de défendre Dieu auprès de nos contemporains. On peut même dire à nos contemporains, tu penses que Dieu est fou ou qu'il n'existe pas? Eh bien, je crois à la même chose que toi. Dieu s'est révélé à travers un homme. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, venu du Père, est venu nous le révéler. Mais comment, alors, première question à se poser, mais comment Dieu peut-il descendre sur terre, se faire homme et être encore Dieu? Vous me suivez? Eh bien, c'est des doubles. Mais truc de fou quand même, hein. Il y a le père et le fils. Nous, ça nous semble évident, cette histoire-là. Mais pour un juif, dire que Dieu, tout d'un coup, se dédouble, il est père et il est fils, et il est pleinement Dieu là, et il est pleinement Dieu là, les juifs, ils disent, mais ils sont canus, ces chrétiens, c'est des fous, mais de quoi ils parlent? Un homme ne peut pas être Dieu. Quand Jésus va dire à un homme, je pardonne tes péchés, les juifs se regardent en disant, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et vous allez remarquer, Jésus ne répond rien à ça. Ben oui, il est Dieu. Et il peut pardonner les péchés. Il peut dire à un homme, tes péchés sont pardonnés. C'est un premier acte impossible à comprendre pour les juifs. Dieu devient homme. Dieu est homme. Il est pleinement homme et il nous représente. Mais il est pleinement Dieu et il représente Dieu. Il y a Dieu et l'humain en Jésus-Christ. Et notre cerveau, là, on ne comprend rien. Mais si Dieu veut, il peut le faire. Dieu qui a fait les hippopotames est capable de faire le Fils pleinement Dieu et pleinement homme. Il est capable de s'incarner, de venir parmi nous. À un moment donné, Philippe a le cerveau qui explose et il dit à Jésus, mais montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, ben, tu m'as vu, tu as vu le Père. Et Philippe, tu ne comprends pas, il voit un homme, il ne voit pas Dieu. Mais moi, je veux voir Dieu, quoi. Ben, tu sais, le Dieu qui s'est révélé à Isaïe, tu sais, il y avait un truc énorme là qui est descendu, il y avait des éclairs partout. Et là, il y a un homme ben, qui vit avec nous, qui mange avec nous, qui est tout saint. Et tu dis que cet homme, c'est Dieu. Et alors, à un moment donné, il y a Jésus qui chemine avec ses disciples, et petit à petit, il leur dit des choses, il rencontre la foule, il guérit des malades. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, il y a un disciple qui dit, bah, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es la résurrection de Jean le Baptiste. Et tout d'un coup, il se tourne vers eux et il dit, qui dites-vous que je suis? Et là, il y a Pierre qui réunit tout son cerveau, là. Vous savez, tous ses neurones, il les prend comme ça, il les rassemble et il dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et là, Jésus est impressionné. Il a capté. Et il dit, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui t'a démontré ça, qui t'a montré ça, qui a compris que je suis le Fils de Dieu. Alors, il est tout content, Jésus dit, ils sont intelligents quand même, ces hommes, ils sont capables de capter que Dieu peut se faire l'homme, son fort, quoi. Alors il continue. Elle dit, ben voilà, je vais mourir, et 3 jours après, je vais ressusciter. Et là, vous avez le cerveau de Pierre qui fait... Il dit, non, Dieu devenu homme, je comprends. Tu vas devenir roi, tout le monde va te reconnaître comme roi, et puis tu vas renverser les Romains, et tu vas faire de ton peuple le peuple de Dieu qui va renverser toutes les réalités, qui va triompher de toutes les réalités. Non, je vais mourir et 3 jours après, je ressuscite. Alors, il y a Pierre qui vient voir Jésus en disant, non, quand tu dis ça, parce que là, on ne te suit plus, là. Plus personne ne te suit. Vous voyez, quelque part, Pierre est en train de dire à Jésus, Jésus, en évangélisation, tu es nul, hein. Franchement, tu vois pas grand-chose, hein. Parce que tu dis un truc super, que tu es Dieu venu du ciel, ça, c'est impressionnant. Mais dire que tu vas mourir sur une croix, ça nous impressionne pas du tout, ça nous dégoûte. C'est les pires criminels qu'on met sur une croix, c'est pas possible. Tu vas pas dire ça. Et Jésus, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, arrière-toi, Satan. Ce que tu penses là, c'est la pensée des hommes. C'est l'intelligence des hommes. Mais moi, je pense pas comme les hommes. Je suis venu pour ça. Et les disciples se découragent. Et Jésus leur dit une deuxième fois, je vais mourir. Et 3 jours après, je ressusciterai. Jésus, ton message ne fait pas du tout là. Tu peux nous parler d'autre chose là? C'est que tu es venu de la part de Dieu, que tu vas faire des miracles, que tu vas nous pardonner nos péchés. Ça nous plaît ça, cette idée-là. Mais cette idée que tu vas mourir et ressusciter, ça nous plaît pas. Et puis regarde, la foule est partie déjà. Alors Jésus leur demande, pourquoi vous restez vous? Ben, parce que tu as les paroles de la vie, parce que on t'a suivi jusque-là, on va continuer à te suivre. Alors il les amène à Gethsémané. Et vous allez prier avec moi parce que c'est difficile. C'est difficile. Mais voyez que quoi que Jésus fera, Pierre ne peut pas admettre que Jésus va porter ses péchés, va porter les péchés de toute l'humanité sur ses épaules. C'est compliqué pour Pierre. Et Pierre, il est dans l'absurde, mais il aime Jésus. Et il ne comprend pas Jésus, mais il aime Jésus. Et lui dit, tu sais, même si ceux-là ne te suivent pas, moi je te suivrai jusqu'au bout. Je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus lui dit, tu vas me renier trois fois. Mais non, Jésus, tu ne connais pas quoi. Vous connaissez ce que c'est l'amitié, on va aller à l'amitié. C'est pour la vie. Enfin, deux jours. Ah, toi, tu es mon ami, tu peux venir quand tu veux à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, je suis occupé. C'est l'amitié comme on l'a vu dans le sud, hein, celle de Pierre. Et Pierre, on voit bien que ben, quand la peur commence à l'envahir, que sa vie est en danger, là, il dit, ah non, non, je ne connais pas, hein, Jésus. Non, je ne le connais pas. Et Jésus le regarde. Et là, il dit, ce serait bien que quelqu'un puisse porter le poids de cette culpabilité. Vous voyez, c'est terrible d'avoir renié celui qu'on a suivi. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne, mais peut-être que tu te dis, mais je suis incapable de témoigner auprès des gens. Moi, j'ai déjà tellement de problèmes dans ma vie. Mais de quoi on va parler à nos contemporains? On va parler de Dieu qui est venu vers nous, qui a fait de nous des disciples sages, intelligents, capables de témoigner auprès de leurs contemporains. Et on va vers les autres en disant, vous n'avez pas compris, mais on va vous expliquer. Voilà, Jésus est venu de la part du Père et vous avez de grands péchés. Mais Jésus est venu pour vos péchés. Ce que Pierre a expérimenté, ce que nous expérimentons, c'est que nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Peut-être que, en face de ce projet d'Église que vous êtes en train d'écrire, vous dites, voilà. Ça, c'est pour les bons chrétiens de l'église Oena, hein. Les anciens, là, ceux qui ont créé l'église, tous et tous, sont vraiment de bons chrétiens. Eux, ils tiennent bien la route, mais moi, j'ai pas le temps, et puis j'ai pas l'énergie, et puis Dieu n'a pas besoin de moi, c'est pas possible. Voilà que Jésus va à la rencontre de Pierre après sa résurrection. Et il lui pose une question simple. Est-ce que tu m'aimes? Malgré tous les paradoxes que tu as pris dans la tête, malgré tout ce que tu n'as pas capté de moi, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre le regarde en lui disant, mais tu parles encore à moi qui t'ai trahi? Enfin, dans sa tête, ça doit se passer un peu comme ça. Il dit, tu sais que je... Oui, je t'aime. Alors, tu te l'aimes. Et tout d'un coup, petit à petit, Pierre comprend la seconde folie de Dieu. La première, c'était de nous envoyer Jésus-Christ, de faire que Jésus-Christ, qui est pleinement Dieu, soit pleinement homme. C'est déjà fou. Mais en plus, il va mourir à notre place, il va porter tous nos fardeaux sur ses épaules. Il va devenir le péché, l'agneau rédempteur. Comme on apprend tout à l'heure, le pain et le vin, c'est de ça qu'on va parler. Jésus est mort pour que moi je ne meure pas. Il a pris sur lui les conséquences de mes fautes. C'est incroyable. Et voilà la seconde folie de Dieu. Tu me l'as dit ou je ne vous l'ai dit pas? Parce que ça fait beaucoup déjà. Tu me l'as dit? C'est embêtant parce que ça va vous concerner, cette seconde folie. Il a décidé de faire de ses disciples son corps. Il a décidé de faire de toi son messager. Il a décidé de faire de toi celui qui allait le représenter sur terre. C'est ça le corps de Christ. Quand on voit l'église d'Aubagne, quand on voit l'église libre d'Aubagne, on voit le Christ. En voyant vos visages, on voit le visage du Christ. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos voisins, avec vos amis, on voit le Christ. Pourquoi? Yvan l'a dit tout à l'heure, parce qu'il habite dans mon cœur, il est venu par son Saint-Esprit, habite en vous. Il est monté au ciel et il nous dit, c'est vous maintenant qui allez me représenter sur terre. C'est tellement incroyable. Pourquoi Jésus a fait tout ça? Pourquoi Jésus a fait cette première folie d'envoyer Jésus-Christ? Et deuxièmement, de t'employer, de m'employer comme des disciples qui allons porter le message à nos contemporains. Vous savez pourquoi il a fait tout ça? Parce que c'était le seul moyen de nous sauver. Toute cette folie d'envoyer le Christ, que le Christ meure à notre place, que nous soyons disciples et qu'il nous utilise pour changer le monde, tout cela a été nécessaire pour que le monde soit sauvé. C'est vital. C'est vital pour nous sauver. Pierre, quand il voit Jésus qui vient à ses pieds pour lui laver les pieds, il dit, mais si toi, mon maître, tu ne peux pas me laver les pieds, tu ne peux pas être un esclave qui vient me laver les pieds. Et Jésus lui dit très sérieusement, si je ne te lave pas, je ne partagerai rien avec toi. Alors du coup, Pierre, vous connaissez Pierre, il s'en mal. Il dit, ben lave-moi la tête et les mains alors aussi, vas-y. Voilà, la totale, fais-moi le bain. Il dit non, mais les pieds, ça suffit. Est-ce que on accepterait ce matin que Jésus vienne nous laver les pieds? Nous dire, tu sais, tu n'es pas propre, mais moi, je vais te laver. Je vais te purifier. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta culpabilité, Jésus peut faire de toi la personne la plus propre, la plus pure qui existe dans ce monde. Et la provocation que la Bible utilise à maintes reprises, soyez saints, là, je suis saint. Dieu nous a donné les moyens d'être comme lui. Il n'a pas peur, il n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de sa famille. L'accepter, c'est plier les genoux. Pierre a plié les genoux devant Jésus qui lui dit, même au-dessus. Thomas, avec sa logique, dit, mais c'est pas possible que cet homme mort soit ressuscité. Et Jésus se présente à lui. Sa logique tombe. Comment nous allons vivre le projet que nous sommes en train de déployer? Juste en réalisant que ce projet que nous sommes en train de réfléchir à l'aide de la parole de Dieu, ce n'est pas notre projet. C'est le projet de Jésus-Christ, de toute éternité. Dès que l'homme a péché, Dieu savait déjà qu'à Aubagne, en 2022, vous écririez ce projet. Et avec l'aide du Christ, vous allez vivre ce projet. Qu'est-ce que c'est beau? Jésus guérit. Jésus pardonne. Et Jésus guérit et pardonne non pas depuis le ciel, mais en venant de notre réalité. Et nous voulons dire à nos contemporains qui sont malades, dans la culpabilité, dans la folie de ce monde, Jésus peut te guérir, il peut te pardonner, il en a payé le prix. Une église qui juge passe à côté de l'intention de Dieu. En résumé, Dieu aime l'humain au point d'en devenir victime. Quand nos contemporains accusent Dieu, regardons-les, comprenons ce qui est en train de se passer. Pourquoi on rejette sur Dieu la faute? Pourquoi on rejette sur Dieu, finalement, tout ce qui ne va pas sur notre terre? Parce qu'on n'arrive pas à la suivre. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'humain, quand il a beaucoup d'argent, vous savez ce qu'il fait? Il aide, par exemple, les pays qui sont en guerre. Il aide les pauvres. Non, c'est pas ça que font les pays. Vous savez ce que font les pays quand ils ont beaucoup d'argent? Ils font des armes. Tout l'argent des États-Unis, tout l'argent de la Russie, tout l'argent de la Chine va à la création d'armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus chères. Et on a envie de regarder ça en disant, mais il y a des pays démocratiques, il y a des pays qui le sont moins, mais ce sont toujours des humains. Qu'est-ce que fait l'homme? Il est en train de détruire la terre. Est-ce que tu sais que ton voisin le sait, cela? Que tes amis le savent? Quel sens a ce monde de devenir? Si la folie de Dieu ne vient pas répondre à la folie humaine, le monde est perdu. Le Dieu que je te présente n'est pas un Dieu sage selon ta sagesse. C'est un Dieu sage qui veut briser ta folie par la sienne. Qui veut remplacer l'énergie que tu déploies à être violent par l'énergie qu'il déploie à t'aimer. Je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de Martin. Martin, c'est un garçon super chouette. C'est un gars qui est éducateur et il a rencontré dans son travail une fille qui est éducatrice. Elle est jolie. Voilà, un petit défaut, elle est chrétienne. Donc elle va à l'église le dimanche. Le seul jour où on peut faire tranquillement la basse matinée, ma copine va à l'église. Et elle lui dit, ben, au lieu de râler, viens avec moi. Alors, viens avec elle. Et regarde comme ça, en girouette, tous ces chrétiens qui chantent de tout leur cœur. Je vais le voir à la fin du culte et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, je crois qu'ils en ont besoin là, ils se défoulent un peu. Ça leur fait du bien. Et qu'est-ce que t'as pensé de la prédication? Ah là, j'ai pas capté là. Tu vas parler d'un Dieu fou? Non, ça ne parle pas tellement, ton Dieu fou. Enfin voilà, on monte sur la croix pour mes péchés, donner du pain. Du jus de raisin, pas assez pour vous nourrir, juste assez pour vous donner faim. Enfin, je comprends pas tout ce que ça dure aucune heure, ça. Mais moi, je viens vraiment pour ma copine, quoi. Et il me demande de préparer son mariage. Ça fait plaisir, c'est pas ma copine. Moi, je m'en fous, mais ça fait plaisir. Et il aime sa copine, donc voilà. Et il vient comme ça. Et un jour, il m'appelle et il me dit, j'y vais, il faudrait qu'on se voit pour la préparation. Je dis la préparation de mariage. Il dit non, non, la préparation au baptême. J'ai loupé un épisode là. Oui, oui, pour que je t'explique. Et il m'explique ce que je vais vous raconter là. Il dit en plus de dimanche, et il y a sur le mur les louanges que nous adressons à Dieu. Et à un moment donné, sort de l'écran quelqu'un qui vient direct vers lui et qui lui dit pourquoi tu m'en veux autant? Et il dit, je t'en veux pas, t'existes pas. Alors, il dit, si, j'existe. Et j'ai envie de discuter avec toi. Il dit, je veux bien, mais qu'est-ce que je vais te dire? Ben, il dit, lis les paroles et dis-les. Et c'est vrai que le dimanche précédent, j'étais étonné parce que je le voyais avec des petites larmes aux yeux et en train de chanter les cantiques. Je disais, il est athée et il chante les cantiques. Et il pleure. Je comprenais pas trop. Il m'a expliqué. Jésus est venu à sa rencontre. Qu'est-ce qu'a fait l'Église? Ben, sa copine, elle avait la conviction que Dieu avait mis ce garçon sur son chemin. Elle l'a amené à l'Église. Et puis le Christ a fait le reste. C'est tellement simple de témoigner finalement. Juste, tu comprends pas tout, c'est normal. Moi non plus, je comprenais pas tout avant. Mais, t'inquiète, le Christ viendra à ta rencontre. Est-ce que vous croyez ça pour vos enfants quand même? Est-ce que vous croyez à ça quand vous priez pour vos amis? C'est pas vous qui allez les convaincre. Vous, ils vous voient un peu, je suis désolé, hein, comme un peu fou. Mais assumez-le, assumons-le pour le Christ. Nous sommes un peu fous. De croire que Dieu va nous sauver par un homme qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort sur une croix, je vois pas ce que ça a à faire avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes économiques, avec l'inflation. Je vois pas le rapport. Je vois vraiment pas le rapport. Et moi, je te dis que le Christ sur la croix est la réponse à l'inflation. C'est la réponse à la guerre en Ukraine. C'est la réponse à la dépression en France. C'est la réponse au suicide des jeunes aujourd'hui dans ce pays. C'est la réponse à toutes les questions que se posent vos amis. Mais sauf que c'est lui, Jésus, qui va venir vers vos amis. Nous, notre souci, il n'est pas tellement de défendre Jésus-Christ. Il est fou. Ok. Mais il t'aime. Juste, nous avons à défendre Jésus d'une façon simple, en aimant nos amis. Bon, nos enfants, on les aime, c'est sûr. Mais nos amis, les aimer, même quand ils nous disent des horreurs sur Jésus, c'est pas grave. Même quand ils se moquent de nous, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Je t'aime et je connais tes paradoxes. Moi, je les ai vécus aussi, ces paradoxes. Mais j'ai été bouleversé par la présence du Christ. Martin a été bouleversé par la présence de Christ. Il s'est fait baptiser, il s'est marié. Aujourd'hui, c'est lui qui est derrière, là, en train de taper sur les boutons pour le culte.
Et c'est un garçon tellement merveilleux. Dieu est venu le chercher. Tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Juste être là. L'Église n'a rien fait. Juste être là et chanter les louanges du Seigneur. Dieu va collaborer avec ses disciples. Et nous allons ensemble apprendre la culture de Jésus-Christ. Et la première chose que j'aimerais vous laisser après, il y a six autres éléments de cette culture, c'est l'audace. Dieu a eu de l'audace pour venir du ciel sur la terre nous sauver. Nous, on n'a pas grand-chose à faire. On a quelques mots pour aller voir nos contemporains. C'est quoi cette audace que Jésus nous demande par rapport à l'audace que lui a eu de nous? Notre sagesse, notre méthode dépend de Christ. Notre projet dépend de Jésus-Christ. Si ce n'est pas lui qui est au cœur de ce projet va rater, va échouer. Mais si c'est le Christ qui est au cœur de ce projet, l'Église globale va changer. Peut-être que l'Église globale va se mettre à construire une cathédrale sur Aubagne. Jésus nous prépare à changer le monde. Ce n'est pas un petit changement que le Christ nous apporte. C'est un changement fondamental. Je vous propose de lire ensemble cette prière dans Romains 8, verset 31. C'est Paul qui prie pour les croyants. Et entendons Paul prier pour nous, pour chacun d'entre nous. Romains 8, 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous ferait-il pas totalement grâce avec son fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne. C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera alors? Personne. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Les privations? Le danger? La mort? Verset 37. Dans tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités, puissance céleste, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ou aucune autre chose créée. Nous ne pourrons jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ.